Henri Bergson,
Les deux sources de la morale et de la religion. Chapitre 1er. L'obligation morale. Le souvenir du fruit défendu est ce qu'il y a de plus ancien dans la mémoire de chacun de nous, comme dans celle de l'humanité. Nous nous en apercevrions si ce souvenir n'était recouvert par d'autres auxquels nous préférons nous reporter. Que n'eût pas été notre enfance si on nous avait laissé faire. Nous aurions volé de plaisir en plaisir. Mais voici qu'un obstacle surgissait, ni visible ni tangible, une interdiction. Pourquoi obéissions-nous? La question ne se posait guère, nous avions pris l'habitude d'écouter nos parents et nos maîtres. Toutefois, nous sentions bien que c'était parce qu'ils étaient nos parents, parce qu'ils étaient nos maîtres. Donc, à nos yeux, leur autorité leur venait moins d'eux-mêmes que de leur situation par rapport à nous. Ils occupaient une certaine place. C'est de là que partait, avec une force de pénétration qu'ils n'auraient pas eue s'il avait été lancé d'ailleurs, le commandement. En d'autres termes, parents et maîtres semblaient agir par délégation. Nous ne nous en rendions pas nettement compte, mais derrière nos parents et nos maîtres, nous devinions quelque chose d'énorme, ou plutôt d'indéfini, qui pesait sur nous de toute sa masse par leur intermédiaire. Nous dirions plus tard que c'est la société. Philosophant alors sur elle, nous la comparerions à un organisme dont les cellules, unies par d'invisibles liens, se subordonnent les unes aux autres dans une hiérarchie savante et se plient naturellement, pour le plus grand bien de tout, à une discipline qui pourra exiger le sacrifice de la partie. Ce ne sera d'ailleurs là qu'une comparaison, car autre chose est un organisme soumis à des lois nécessaires, autre chose, une société constituée par des volontés libres. Mais, du moment que ces volontés sont organisées, elles imitent un organisme, et dans cet organisme plus ou moins artificiel, l'habitude joue le même rôle que la nécessité dans les œuvres de la nature. De ce premier point de vue, la vie sociale nous apparaît comme un système d'habitudes plus ou moins fortement enracinées, qui répondent aux besoins de la communauté. Certaines d'entre elles sont des habitudes de commander. La plupart sont des habitudes d'obéir, soit que nous obéissions à une personne qui commande en vertu d'une délégation sociale, soit que de la société elle-même, confusément perçue ou sentie, émane un ordre impersonnel. Chacune de ces habitudes d'obéir exerce une pression sur notre volonté. Nous pouvons nous y soustraire, mais nous sommes alors tirés vers elle, ramenés à elle comme le pendule écarté de la verticale. Un certain ordre a été dérangé, il devrait se rétablir. Bref, comme par toute habitude, nous nous sentions obligés. Mais c'est une obligation incomparablement plus forte. Quand une grandeur est tellement supérieure à une autre que celle-ci est négligeable par rapport à elle, les mathématiciens disent qu'elle est d'un autre ordre. Ainsi, pour l'obligation sociale, sa pression, comparée à celle des autres habitudes, est telle que la différence de degré équivaut à une différence de nature. Remarquons en effet que toutes les habitudes de ce genre se prêtent d'un mutuel appui. Nous avons beau ne pas spéculer sur leur essence et leur origine, nous sentons qu'elles ont un rapport entre elles, étant réclamées de nous par notre entourage immédiat ou par l'entourage de cet entourage, et ainsi de suite, jusqu'à la limite extrême qui serait la société. Chacune répond, directement ou indirectement, à une exigence sociale, et dès lors, toutes se tiennent. Elles forment un bloc. Beaucoup seraient de petites obligations si elles se présentaient isolément. Mais elles font partie intégrante de l'obligation en général. Et ce tout, qui doit d'être ce qu'il est à l'apport de ses parties, confère à chacune en retour l'autorité globale de l'ensemble. Le collectif vient ainsi renforcer le singulier et la formule « c'est le devoir » triomphe des hésitations que nous pourrions avoir devant un devoir isolé. À vrai dire, nous ne pensons pas explicitement à une masse d'obligations partielles, additionnées, qui composerait une obligation totale. Peut-être même n'y a-t-il pas véritablement ici une composition de parties. La force qu'une obligation tire de toutes les autres est plutôt comparable au souffle de vie que chacune des cellules aspire, indivisible et complet, du fond de l'organisme dont elle est un élément. La société, immanente à chacun de ses membres, a des exigences qui, grandes ou petites, mais répétons que ce n'est là encore qu'une comparaison. Une société humaine est un ensemble d'êtres libres. Les obligations qu'elle impose et qui lui permettent de subsister introduisent en elle une régularité qui a simplement de l'analogie avec l'ordre inflexible des phénomènes de la vie. Tout concourt cependant à nous faire croire que cette régularité est assimilable à celle de la nature. Je ne parle pas seulement de l'unanimité des hommes à louer certains actes et à en blâmer d'autres. Je veux dire que la même ou les préceptes moraux impliqués dans les jugements de valeur ne sont pas observés. On s'arrange pour qu'ils paraissent l'être. Pas plus que nous ne voyons la maladie quand nous nous promenons dans la rue, nous ne mesurons ce qu'il peut y avoir d'immoralité derrière la façade que l'humanité nous montre. On mettrait bien du temps à devenir misanthrope si l'on s'en tenait à l'observation d'autrui. C'est en notant ses propres faiblesses qu'on arrive à plaindre ou à mépriser l'homme. L'humanité, dont on se détourne alors, est celle qu'on a découverte au fond de soi. Le mal se cache si bien, le secret est si universellement gardé, que chacun est ici la dupe de tous. Si sévèrement que nous affections de juger les autres hommes, nous les croyons au fond meilleurs que nous. Sur cette heureuse illusion repose une bonne partie de la vie sociale. Il est naturel que la société fasse tout pour l'encourager. Les lois qu'elle édicte et qui maintiennent l'ordre social ressemblent d'ailleurs, par certains côtés, aux lois de la nature. Je veux bien que la différence soit radicale aux yeux du philosophe. Autre chose, dit-il, est la loi qui constate, autre chose celle qui ordonne. À celle-ci, l'on peut se soustraire. Elle oblige, mais ne nécessite pas. Celle-là est au contraire inéluctable, car si quelque fait s'écartait d'elle, c'est à tort qu'elle aurait été prise pour une loi. Il y en aurait une autre qui serait la vraie, qu'on énoncerait de manière à exprimer tout ce qu'on observe, et à laquelle, alors, le réfractaire se conformerait comme les autres. Sans doute. Mais il s'en faut que la distinction soit aussi nette pour la plupart des hommes. Loi physique, loi sociale ou morale, toute loi est à leurs yeux un commandement. Il y a un certain ordre de la nature, lequel se traduit par des lois. Les faits obéiraient à ces lois pour se conformer à cet ordre. Le savant lui-même peut à peine s'empêcher de croire que la loi préside aux faits, et par conséquent les précède, semblable à l'idée platonicienne sur laquelle les choses avaient à se régler. Plus il s'élève dans l'échelle des généralisations. Plus il incline, bon gré mal gré, à doter les lois de ce caractère impératif. Il faut vraiment lutter contre soi-même pour se représenter les principes de la mécanique autrement qu'inscrits de toute éternité sur des tables transcendantes que la science moderne serait allée chercher sur un autre Sinaï. Mais si la loi physique tente à revêtir pour notre imagination la forme d'un commandement quand elle atteint une certaine généralité, réciproquement, un impératif qui s'adresse à tout le monde se présente un peu à nous comme une loi de la nature. Les deux idées se rencontrent dans notre esprit, y font des échanges. La loi prend au commandement ce qu'il a d'impérieux. Le commandement reçoit de la loi ce qu'elle a d'inéductable. Une infraction à l'ordre social revêt ainsi un caractère antinaturel. Même si elle est fréquemment répétée, elle nous fait l'effet d'une exception qui serait à la société ce qu'un monstre est à la nature. Que sera-ce si nous apercevons derrière l'impératif social un commandement religieux? Peu importe la relation entre les deux termes. Qu'on interprète la religion d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit sociale par essence ou par accident, un point est certain, c'est qu'elle a toujours joué un rôle social. Ce rôle est d'ailleurs complexe. Il varie selon les temps et selon les lieux. Mais dans des sociétés telles que les nôtres, la religion a pour premier effet de soutenir et de renforcer les exigences de la société. Elle peut aller beaucoup plus loin. Elle va tout au moins jusque-là. La société institue des peines qui peuvent frapper des innocents, épargner des coupables. Elle ne récompense guère. Elle voit gros et se contente de peu. Où est la balance humaine qui pèserait comme il le faut les récompenses et les peines? Mais de même que les idées platoniciennes nous révèlent, parfaites et complètes, la réalité dont nous ne percevons que des imitations grossières, ainsi, la religion nous introduit dans une cité dont nos institutions, nos lois et nos coutumes marquent tout au plus, de loin en loin, les points les plus saillants. Ici-bas, l'ordre est simplement approximatif et plus ou moins artificiellement obtenu par les hommes. Là-haut, il est parfait et se réalise de lui-même. La religion achève donc de combler à nos yeux l'intervalle déjà rétréci par les habitudes du sens commun entre un commandement de la société et une loi de la nature. Ainsi, nous sommes toujours ramenés à la même comparaison, défectueuse par bien des côtés, acceptable pourtant sur le point qui nous intéresse. Les membres de la cité se tiennent comme les cellules d'un organisme. L'habitude, servie par l'intelligence et l'imagination, introduit parmi eux une discipline qui imite de loin, par la solidarité qu'elle établit entre les individualités distinctes, l'unité d'un organisme aux cellules anastomosées. Tout concourt, encore une fois, à faire de l'ordre social une imitation de l'ordre observé dans les choses. Chacun de nous, se tournant vers lui-même, se sent évidemment libre de suivre son goût, son désir ou son caprice, et de ne pas penser aux autres hommes. Mais la velléité n'en est pas plutôt dessinée qu'une force antagoniste survient, faite de toutes les forces sociales accumulées. À la différence des mobiles individuels qui tireraient chacun de son côté, cette force aboutirait à un ordre qui ne serait pas sans analogie avec celui des phénomènes naturels. La cellule composante d'un organisme, devenue consciente pour un instant, aurait à peine esquissé l'intention de s'émanciper, qu'elle se serait ressaisie par la nécessité, l'individu, qui fait partie de la société, peut infléchir et même briser une nécessité qui imite celle-là, qu'il a quelque peu contribué à créer, mais que surtout il subit. Le sentiment de cette nécessité, accompagné de la conscience du pouvoir s'y soustraire, n'en est pas moins ce qu'il appelle obligation. Ainsi envisagée et prise dans son acception la plus ordinaire, l'obligation est à la nécessité ce que l'habitude est à la nature. Elle ne vient donc pas précisément du dehors. Chacun de nous appartient à la société autant qu'à lui-même. Si sa conscience, travaillant en profondeur, lui révèle, à mesure qu'il descend davantage, une personnalité de plus en plus originale, incommensurable avec les autres, et d'ailleurs inexprimable par la surface de nous-mêmes, nous sommes en continuité avec les autres personnes, semblables à elles, unies à elles par une discipline qui crée entre elles et nous une dépendance réciproque. S'installer dans cette partie socialisée de lui-même, est-ce, pour notre moi, le seul moyen de s'attacher à quelque chose de solide? Ce le serait si nous ne pouvions autrement nous soustraire à une vie d'impulsion, de caprice et de regret. Mais, au plus profond de nous-mêmes, si nous savons le chercher, nous découvrirons peut-être un équilibre d'un autre genre, plus désirable encore que l'équilibre superficiel. Des plantes aquatiques qui montent à la surface sont ballottées sans cesse par le courant. Leurs feuilles, se rejoignant au-dessus de l'eau, leur donnent de la stabilité en haut par leur entrecroisement. Mais plus stables encore sont les racines, solidement plantées dans la terre, qui les soutiennent du bas. Toutefois, de l'effort par lequel on creuserait jusqu'au fond de soi-même, nous ne parlons pas pour le moment. S'il est possible, il est exceptionnel. Et c'est à sa surface, à son point d'insertion dans le tissu serré des autres personnalités extériorisées, que notre moi trouve d'ordinaire où s'attacher. Sa solidité est dans cette solidarité. Mais au point où il s'attache, il est lui-même socialisé. L'obligation que nous nous représentons comme un lien entre les hommes lie d'abord chacun de nous à lui-même. C'est donc à tort qu'on reprocherait à une morale purement sociale de négliger les devoirs individuels. Même si nous n'étions obligés théoriquement que vis-à-vis des autres hommes, nous le serions en fait vis-à-vis de nous-mêmes, puisque la solidarité sociale n'existe que du moment où un moi social se surajoute en chacun de nous au moi individuel. Cultiver ce moi social est l'essentiel de notre obligation vis-à-vis de la société. Sans quelque chose d'elle en nous, elle n'aurait sur nous aucune prise. Et nous avons à peine besoin d'aller jusqu'à elle, nous nous suffisons à nous-mêmes, si nous la trouvons présente en nous. Sa présence est plus ou moins marquée selon les hommes. Mais aucun de nous ne saurait s'isoler d'elle absolument. Il ne le voudrait pas, parce qu'il sent bien que la plus grande partie de sa force vient d'elle, et qu'il doit aux exigences sans cesse renouvelées de la vie sociale cette tension ininterrompue de son énergie, cette constance de direction dans l'effort, qui assure à son activité le plus haut rendement. Mais il ne le pourrait pas même s'il le voulait, parce que sa mémoire et son imagination vivent de ce que la société a mis en elle, parce que l'âme de la société est immanente au langage qu'il parle, et que, même si personne n'est là, même s'il ne fait que penser, il se parle encore à lui-même. En vain, on essaie de se représenter un individu dégagé de toute vie sociale. Même matériellement, Robinson dans son île, reste en contact avec les autres hommes. Car les objets fabriqués qu'il a sauvés du naufrage, et sans lesquels il ne se tirerait pas d'affaire, le maintiennent dans la civilisation, et par conséquent dans la société. Mais un contact moral lui est plus nécessaire encore, car il se découragerait vite s'il ne pouvait opposer à des difficultés sans cesse renaissantes qu'une force individuelle dont il sent les limites. Dans la société à laquelle il demeure idéalement attaché, il puise de l'énergie. Il a beau ne pas la voir, elle est là qui le regarde. Si le moi individuel conserve vivant et présent le moi social, il fera, isolé, ce qu'il ferait avec l'encouragement et même l'appui de la société entière. Ce que les circonstances condamnent pour un temps à la solitude et qui ne trouvent pas en eux-mêmes les ressources de la vie intérieure profonde, savent ce qu'il en coûte de se laisser aller, c'est-à-dire de ne pas fixer le moi individuel au niveau prescrit par le moi social. Ils auront donc soin d'entretenir celui-ci, pour qu'il ne se relâche en rien de sa sévérité à l'égard de l'autre. Au besoin, ils lui chercheront un point d'appui matériel et artificiel. On se rappelle le garde forestier dont parle Kipling, seul dans sa maisonnette au milieu d'une forêt de l'Inde. Tous les soirs, il se met en habit noir pour dîner, afin de ne pas perdre dans son isolement le respect de lui-même. Que ce moi social soit le spectateur impartial d'Adam Smith, qu'il faille l'identifier avec la conscience morale, qu'on se sente satisfait ou mécontent de soi selon qu'il est bien ou mal impressionné, nous n'irons pas jusqu'à le dire. Nous découvrirons, aux sentiments moraux, des sources plus profondes. Le langage réunit ici, sous le même nom, des choses bien différentes. Quoi de commun entre le remords d'un assassin et celui qu'on peut éprouver, tenace et torturant, pour avoir froissé un amour-propre ou pour avoir été injuste à l'égard d'un enfant. Tromper la confiance d'une âme innocente qui s'ouvre à la vie est l'un des plus grands méfaits au regard d'une certaine conscience qui semble n'avoir pas le sens des proportions, justement parce qu'elle n'emprunte pas à la société son étalon, ses instruments, ses méthodes de mesure. Mais cette conscience n'est pas celle qui s'exerce le plus souvent. Elle est d'ailleurs plus ou moins délicate selon les personnes. En général, le verdict de la conscience est celui que rendrait le moi social. En général aussi, l'angoisse morale est une perturbation des rapports entre ce moi social et le moi individuel. Analysez le sentiment du remords dans l'âme du grand criminel. Vous pourriez d'abord le confondre avec la crainte du châtiment, car ce sont les précautions les plus minutieuses, sans cesse complétées et renouvelées, pour cacher le crime ou pour faire qu'on ne trouve pas le coupable. C'est, à tout instant, l'idée angoissante qu'un détail a été négligé et que la justice va saisir l'indice révélateur. Mais regardez de plus près. Il ne s'agit pas tant pour notre homme d'éviter le châtiment que d'effacer le passé et de faire comme si le crime n'avait pas été commis. Quand personne ne sait qu'une chose est, c'est à peu près comme si elle n'était pas. C'est donc son crime même que le criminel voudrait annuler en supprimant toute connaissance qu'en pourrait avoir une conscience humaine. Mais sa conscience à lui subsiste, et voici que de plus en plus, elle le rejette hors de cette société où il espérait se maintenir en effaçant les traces de son crime. Car on marque encore la même estime à l'homme qu'il était, à l'homme qu'il n'est plus. Ce n'est donc plus à lui que la société s'adresse. Elle parle à un autre, lui, qui sait ce qu'il est. Il se sent plus isolé parmi les hommes qu'il ne le serait dans une île déserte. Car, dans la solitude, il emporterait, l'entourant et le soutenant, l'image de la société. Mais maintenant, il est coupé de l'image comme de la chose. Il se réintégrerait dans la société en confessant son crime. On le traiterait alors comme il le mérite. Mais c'est bien à lui maintenant qu'on s'adresserait. Il reprendrait, avec les autres hommes, sa collaboration. Il serait châtié par eux, mais, s'étant mis de leur côté, il serait un peu l'auteur de sa propre condamnation. Et une partie de sa personne, la meilleure, échapperait ainsi à la peine. Telle est la force qui poussera le criminel à se dénoncer. Parfois, sans aller jusque-là, il se confessera à un ami ou à n'importe quel honnête homme. Rentrant ainsi dans la vérité, sinon au regard de tous, au moins pour quelqu'un, il se relie à la société sur un point, par un fil. S'il ne se réintègre en elle, du moins est-il à côté d'elle, près d'elle. Il cesse de lui être étranger. En tout cas, il n'a plus aussi complètement rompu avec elle ni avec ce qu'il porte d'elle en lui-même. Il faut cette rupture violente pour que se révèle clairement l'adhérence de l'individu à la société. En temps ordinaire, nous nous conformons à nos obligations plutôt que nous ne pensons à elles. S'il fallait chaque fois en évoquer l'idée, énoncer la formule, il serait beaucoup plus fatigant de faire son devoir. Mais l'habitude suffit et nous n'avons le plus souvent qu'à nous laisser aller pour donner à la société ce qu'elle attend de nous. Elle a d'ailleurs singulièrement facilité les choses en intercalant des intermédiaires entre nous et elle. Nous avons une famille, nous exerçons un métier ou une profession. Nous appartenons à notre commune, à notre arrondissement, à notre département. Et là où l'insertion du groupe dans la société est parfaite, il nous suffit, à la rigueur, de remplir nos obligations vis-à-vis du groupe pour être quitte envers la société. Elle occupe la périphérie, l'individu est au centre. Du centre à la périphérie sont disposés, comme autant de cercles concentriques de plus en plus larges, les divers groupements auxquels l'individu appartient. De la périphérie au centre, à mesure que le cercle se rétrécit, les obligations s'ajoutent aux obligations et l'individu se trouve finalement devant leur ensemble. L'obligation grossit ainsi en avançant, mais plus compliquée, elle est moins abstraite et elle est d'autant mieux acceptée. Devenue pleinement concrète, elle coïncide avec une tendance si habituelle que nous la trouvons naturelle, à jouer dans la société le rôle que nous assigne notre place. Tant que nous nous abandonnons à cette tendance, nous la sentons à peine. Elle se révèle impérieuse, comme toute habitude profonde, que si nous nous écartons d'elle. C'est la société qui trace à l'individu le programme de son existence quotidienne. On ne peut vivre en famille, exercer sa profession, vaquer aux mille soins de la vie journalière, faire ses emplettes, se promener dans la rue ou même rester chez soi, sans obéir à des prescriptions et se plier à des obligations. Un choix s'impose à tout instant. Nous optons naturellement pour ce qui est conforme à la règle. C'est à peine si nous en avons conscience. Nous ne faisons aucun effort. Une route a été tracée par la société. Nous la trouvons ouverte devant nous et nous la suivons. Il faudrait plus d'initiative pour prendre à travers champ. Le devoir, ainsi entendu, s'accomplit presque toujours automatiquement. Et l'obéissance au devoir si l'on s'en tenait au cas le plus fréquent, se définirait un laisser-aller ou un abandon. D'où vient donc que cette obéissance apparaît au contraire comme un état de tension, et le devoir lui-même comme une chose raide et dure. C'est évidemment que des cas se présentent où l'obéissance implique un effort sur soi-même. Ces cas sont exceptionnels, mais on les remarque parce qu'une conscience intense les accompagne, comme il arrive pour toute hésitation. À vrai dire, la conscience est cette hésitation même, l'acte qui se déclenche tout seul, passant à peu près inaperçu. Alors, en raison de la solidarité de nos obligations entre elles, et parce que le tout de l'obligation est immanent à chacune de ses parties, tous les devoirs se colorent de la teinte qu'a prise exceptionnellement tel ou tel d'entre eux. Du point de vue pratique, il n'y a aucun inconvénient. Il y a même certains avantages à envisager ainsi les choses. Si naturellement, en effet, qu'on fasse son devoir, on peut rencontrer en soi de la résistance. Il est utile de s'y attendre et de ne pas prendre pour accordé qu'il soit facile de rester bon époux, bon citoyen, travailleur consciencieux, enfin honnête homme. Il y a d'ailleurs une forte part de vérité dans cette opinion, car s'il est relativement aisé de se maintenir dans le cadre social, encore a-t-il fallu s'y insérer, et l'insertion exige un effort. L'indiscipline naturelle de l'enfant, la nécessité de l'éducation, en sont la preuve. Il n'est que juste de tenir compte à l'individu du consentement virtuellement donné à l'ensemble de ses obligations, même s'il n'a plus à se consulter pour chacune d'elles. Le cavalier n'a qu'à se laisser porter. Encore a-t-il dû se mettre en selle. Ainsi, pour l'individu vis-à-vis de la société, en un certain sens il serait faux, et dans tous les sens il serait dangereux, de dire que le devoir peut s'accomplir automatiquement. Érigeons donc en maxime pratique que l'obéissance au devoir est une résistance à soi-même. Mais autre chose est une recommandation, autre chose une explication. Lorsque, pour rendre compte de l'obligation, de son essence et de son origine, on pose que l'obéissance au devoir est avant tout un effort sur soi-même, un état de tension ou de contraction. On commet une erreur psychologique qui a vicié beaucoup de théories morales. Ainsi, on surgit des difficultés artificielles, des problèmes qui divisent les philosophes et que nous verrons s'évanouir quand nous en analyserons les termes. L'obligation n'est nullement un fait unique, incommensurable avec les autres, se dressant au-dessus d'eux comme une apparition mystérieuse. Si bon nombre de philosophes, en particulier ceux qui se rattachent à Kant, l'ont envisagé ainsi, c'est qu'ils ont confondu le sentiment de l'obligation, état tranquille et apparenté à l'inclination, avec l'ébranlement que nous nous donnons parfois pour briser ce qui s'opposerait à elle. Au sortir d'une crise rhumatismale, on peut éprouver de la gêne, voire de la douleur, à faire jouer ses muscles et ses articulations. C'est la sensation globale d'une résistance opposée par les organes. Elle décroît peu à peu et finit par se perdre dans la conscience que nous avons de nos mouvements quand nous nous portons bien. On peut d'ailleurs admettre qu'elle est encore là, à l'état naissant, ou plutôt évanouissant, et qu'elle guette seulement l'occasion de s'intensifier. Il faut en effet s'attendre à des crises quand on est rhumatisant. Que dirait-on pourtant de celui qui ne verrait dans notre sentiment habituel de mouvoir bras et jambes que l'atténuation d'une douleur, et qui définirait notre faculté locomotrice par un effort de résistance à la gêne rhumatismale. Il renoncerait d'abord, ainsi, à rendre compte des habitudes motrices. Chacune de celles-ci implique en effet une combinaison particulière de mouvements et ne peut se comprendre que par elle. La faculté générale de marcher, de courir, de mouvoir son corps n'est que la somme de ces habitudes élémentaires dont chacune trouve son explication propre dans les mouvements spéciaux qu'elle enveloppe. Mais, n'ayant envisagé cette faculté que globalement, et l'ayant d'ailleurs érigée en force opposée à une résistance, nécessairement, on fait surgir à côté d'elle le rhumatisme comme une entité indépendante. Il semble qu'une erreur du même genre ait été commise par beaucoup de ceux qui ont spéculé sur l'obligation. Nous avons mis l'obligation spéciale dont chacune réclame son explication à elle. Il est naturel, ou plus précisément habituel, de leur obéir à toutes. Par exception, on s'écartera de l'une d'elles, on résistera. Que si l'on résiste à cette résistance, un état de tension ou de contraction se produira. C'est cette raideur que nous extériorisons quand nous prêtons au devoir un aspect aussi sévère. C'est à elle aussi que pensent les philosophes quand ils croient résoudre l'obligation en éléments rationnels. Pour résister à la résistance, pour nous maintenir dans le droit chemin quand le désir, la passion ou l'intérêt nous en détournent, nous devons nécessairement nous donner à nous-mêmes des raisons. Même si nous avons opposé au désir illicite un autre désir, celui-ci, suscité par la volonté, n'a pu surgir qu'à l'appel d'une idée. Bref, un être intelligent agit sur lui-même par l'intermédiaire de l'intelligence. Mais de ce que c'est par des voies rationnelles qu'on revient à l'obligation, il ne suit pas que l'obligation ait été d'ordre rationnel. Nous nous appesantirons plus tard sur ce point. Nous ne voulons pas encore discuter les théories morales. Disons simplement qu'autre chose est une tendance naturelle ou acquise, autre chose, la méthode nécessairement rationnelle qu'emploiera pour lui rendre sa force et pour combattre ce qui s'oppose à elle, un être raisonnable. Dans ce dernier cas, la tendance éclipsée peut reparaître. Et tout se passe sans doute alors comme si l'on avait réussi par cette méthode à reconstituer la tendance. En réalité, on n'a fait qu'écarter ce qui la gênait ou l'arrêtait. Cela revient au même, je le veux bien, dans la pratique. Qu'on explique le fait d'une manière ou d'une autre, le fait est là. On a réussi. Et il vaut peut-être mieux, pour réussir, se figurer que les choses se sont passées de la première manière. Mais poser qu'il en est effectivement ainsi serait fausser la théorie de l'obligation. N'est-ce pas ce qui est arrivé à la plupart des philosophes? Qu'on ne se méprenne pas sur notre pensée, même si l'on s'en tient à un certain aspect de la morale comme nous l'avons fait jusqu'à présent. On constatera bien des attitudes différentes vis-à-vis du devoir. Elles jalonnent l'intervalle entre deux attitudes, ou plutôt deux habitudes extrêmes. Circulation si naturelle sur les voies tracées par la société qu'on les remarque à peine. Hésitation et délibération, au contraire, sur celles qu'on prendra, sur le point jusqu'où l'on ira, sur les trajets d'aller et de retour qu'on fera, en s'engageant successivement sur plusieurs d'entre elles. Dans le second cas, des problèmes nouveaux se posent plus ou moins fréquents. et là même où le devoir est tout tracé, on y met plus ou moins de nuances en l'accomplissant. Mais d'abord, la première attitude est celle de l'immense majorité des hommes. Elle est probablement générale dans les sociétés inférieures. Et ensuite, on a beau raisonner dans chaque cas particulier, formuler la maxime, énoncer le principe, déduire les conséquences. Si le désir et la passion prennent la parole, si la tentation est forte, si l'on va tomber, si, tout à coup, on se redresse, où donc est-elle ressort? Une force s'affirme que nous avons appelée le tout de l'obligation. Extrait concentré, quintessence des 1000 habitudes spéciales que nous avons contractées d'obéir aux 1000 exigences particulières de la vie sociale. Elle n'est ni ceci, ni cela. Et si elle parlait, alors qu'elle préfère agir, elle dirait « il faut parce qu'il faut ». Dès lors, le travail auquel s'employait l'intelligence en pesant les raisons, en comparant les maximes, en remontant aux principes, était de mettre plus de cohérence logique dans une conduite soumise, par définition, aux exigences sociales. Mais à cette exigence sociale tenait l'obligation. Jamais, aux heures de tentation, on ne sacrifierait au seul besoin de cohérence logique son intérêt, sa passion, sa vanité. Parce que la raison intervient en effet comme régulatrice, chez un être raisonnable, pour assurer cette cohérence entre des règles ou maximes obligatoires, la philosophie a pu voir en elle un principe d'obligation. Autant vaudrait croire que c'est le volant qui fait tourner la machine. Les exigences sociales se complètent d'ailleurs les unes les autres. Celui même dont l'honnêteté est la moins raisonnée, et, si je puis dire, la plus routinière, met un ordre rationnel dans sa conduite en se réglant sur des exigences qui sont logiquement cohérentes entre elles. Je veux bien que cette logique soit une acquisition tardive des sociétés. La coordination logique est essentiellement économie. D'un ensemble, elle dégage d'abord, en gros, certains principes. Puis, elle exclut de l'ensemble tout ce qui n'est pas d'accord avec eux. La nature est au contraire surabondante. Plus une société est voisine de la nature, plus large y est la part de l'accident et de l'incohérent. On rencontre chez les primitifs beaucoup d'interdictions et de prescriptions qui s'expliquent par de vagues associations d'idées, par la superstition, par l'automatisme. Elles ne sont pas inutiles, puisque l'obéissance de tous à des règles, même absurdes, assure à la société une cohésion plus grande. Mais l'utilité de la règle lui vient alors uniquement, par ricochet, du fait qu'on se soumette à elle. Des prescriptions ou des interdictions qui valent par elles-mêmes sont celles qui visent positivement la conservation ou le bien-être de la société. C'est à la longue, sans doute, qu'elles se sont détachées des autres pour leur survivre. Les exigences sociales se sont alors coordonnées entre elles et subordonnées à des principes. Mais peu importe. La logique pénètre bien des sociétés actuelles, et celui-là même, qui ne raisonne pas sa conduite, vivra, s'il se conforme à ses principes, raisonnablement. Mais l'essence de l'obligation est autre chose qu'une exigence de la raison. C'est tout ce que nous avons voulu suggérer jusqu'à présent. Notre exposé correspondrait de mieux en mieux à la réalité, croyons-nous, à mesure qu'on aurait affaire à des sociétés moins évoluées, et à des consciences plus rudimentaires. Il reste schématique tant que nous nous en tenons à la conscience normale.
telle que nous la trouvons aujourd'hui chez un honnête homme. Mais justement, parce que nous avons affaire alors à une singulière complication de sentiments, d'idées, de tendances qui s'entrepénètrent, nous n'éviterons les analyses artificielles et les synthèses arbitraires que si nous disposons d'un schéma où figurera l'essentiel. Tel est celui que nous avons essayé de tracer. Représentez-vous l'obligation comme pesant sur la volonté à la manière d'une habitude, chaque obligation traînant derrière elle la masse accumulée des autres et utilisant ainsi, pour la pression qu'elle exerce, le poids de l'ensemble. Vous avez le tout de l'obligation pour une conscience morale simple, élémentaire. C'est l'essentiel. Et c'est à quoi l'obligation pourrait à la rigueur se réduire, la même où elle atteint sa complexité la plus haute. On voit à quel moment et dans quel sens, fort peu qu'ancien, l'obligation élémentaire prend la forme d'un impératif catégorique. On serait embarrassé pour découvrir des exemples d'un tel impératif dans la vie courante. La consigne militaire, qui est un ordre non motivé et sans réplique, dit bien qu'il faut parce qu'il faut. Mais on a beau ne pas donner aux soldats de raison, il en imaginera une. Si nous voulons un cas d'impératif catégorique pur, nous aurons à le construire a priori, ou tout au moins à styliser l'expérience. Pensons donc à une fourmi que traverserait une lueur de réflexion et qui jugerait alors qu'elle a bien tort de travailler sans relâche pour les autres. Ses velléités de paresse ne dureraient d'ailleurs que quelques instants, le temps que brillerait l'éclair d'intelligence. Au dernier de ces instants, alors que l'instinct, reprenant le dessus, la ramènerait de vive force à sa tâche, l'intelligence, que va résorber l'instinct, dirait en guise d'adieu « il faut parce qu'il faut ». Cet « il faut parce qu'il faut » ne serait que la conscience momentanément prise d'une traction subie, de la traction qu'exercerait en se retendant le fil momentanément détendu. Le même commandement retentirait à l'oreille du somnambule qui se préparerait, qui commencerait même à sortir du rêve qu'il joue. S'il retombait tout de suite en somnambulisme, un impératif catégorique exprimerait en mots pour la réflexion qui aurait failli surgir et qui se serait aussitôt évanouie, l'inévitabilité du retour. Bref, un impératif absolument catégorique et de nature instinctive ou somnambulique. Jouer comme tel à l'état normal, représenter comme tel si la réflexion s'éveille juste assez longtemps pour qu'il puisse se formuler, pas assez longtemps pour qu'il puisse se chercher des raisons. Mais alors, n'est-il pas évident que chez un être raisonnable, un impératif tendra d'autant plus à prendre la forme catégorique que l'activité déployée, encore qu'intelligente, tendra davantage à prendre la forme instinctive. Mais une activité qui, d'abord intelligente, s'achemine à une imitation de l'instinct, est précisément ce qu'on appelle chez l'homme une habitude. Et l'habitude la plus puissante, celle dont la force est faite de toutes les forces accumulées, de toutes les habitudes sociales élémentaires, est nécessairement celle qui imite le mieux l'instinct. Est-il étonnant alors que dans le court moment qui sépare l'obligation purement vécue de l'obligation pleinement représentée et justifiée par toutes sortes de raisons, l'obligation prenne en effet la forme de l'impératif catégorique « il faut parce qu'il faut ». Considérons deux lignes divergentes d'évolution et des sociétés à l'extrémité de l'une et de l'autre. Le type de société qui paraîtra le plus naturel sera évidemment le type instinctif, le lien qui unit entre elles les abeilles de la ruche, ressemble beaucoup plus à celle qui retient ensemble, coordonnées et subordonnées les unes aux autres, les cellules d'un organisme. Supposons un instant que la nature ait voulu, à l'extrémité de l'autre ligne, obtenir des sociétés où une certaine latitude fut laissée au choix individuel. Elle aura fait que l'intelligence obtint ici des résultats comparables quant à leur régularité à ceux de l'instinct dans l'autre. Elle aura eu recours à l'habitude. Chacune de ces habitudes, qu'on pourra appeler morale, sera contingente. Mais leur ensemble, je veux dire l'habitude de contracter ces habitudes, étant à la base même des sociétés et conditionnant leur existence, aura une force comparable à celle de l'instinct, et comme intensité, et comme régularité. C'est là précisément ce que nous avons appelé le tout de l'obligation. Il ne s'agira d'ailleurs que des sociétés humaines telles qu'elles sont au sortir des mains de la nature. Il s'agira de sociétés primitives et élémentaires. Mais la société humaine aura beau progresser, se compliquer et se spiritualiser, le statut de sa fondation demeurera, ou plutôt l'intention de la nature. Or, c'est bien ainsi que les choses se sont passées. Sans approfondir un point dont nous nous sommes occupés ailleurs, disons simplement qu'intelligence et instinct sont des formes de conscience qui ont dû s'entrepénétrer à l'état rudimentaire et se dissocier en grandissant. Ce développement s'est effectué sur les deux grandes lignes d'évolution de la vie animale, avec les arthropodes et les vertébrés. Au bout de la première est l'instinct des insectes, plus particulièrement des hyménoptères. Au bout de la seconde est l'intelligence humaine. Instinct et intelligence ont pour objet essentiel d'utiliser des instruments, ici des outils inventés, par conséquent variables et imprévus. Là, des organes fournis par la nature et par conséquent immuables. L'instrument est d'ailleurs destiné à un travail, et ce travail est d'autant plus efficace qu'il est plus spécialisé, puis divisé par conséquent entre travailleurs diversement qualifiés qui se complètent réciproquement. La vie sociale est ainsi immanente, comme un vague idéal, à l'instinct comme à l'intelligence. Cet idéal trouve sa réalisation la plus complète dans la ruche ou la fourmilière d'une part, dans les sociétés humaines de l'autre. Humaine ou animale, une société est une organisation. Elle implique une coordination et généralement aussi une subordination d'éléments les uns aux autres. Elle offre donc, ou simplement vécue, ou de plus représentée, un ensemble de règles ou de lois. Mais dans une ruche ou dans une fourmilière, l'individu est rivé à son emploi par sa structure et l'organisation est relativement invariable. Tandis que la cité humaine est de forme variable, ouverte à tous les progrès. Il en résulte que, dans les premières, chaque règle est imposée par la nature, elle est nécessaire. Tandis que dans les autres, une seule chose est naturelle, la nécessité d'une règle. Plus donc, dans une société humaine, on creusera, jusqu'à la racine des obligations diverses pour arriver à l'obligation générale, plus l'obligation tendra à devenir nécessité, plus elle se rapprochera de l'instinct dans ce qu'il a d'impérieux. Et néanmoins, on se tromperait grandement si l'on voulait rapporter à l'instinct une obligation particulière, quelle qu'elle fût. Ce qu'il faudra toujours se dire, c'est que, aucune obligation n'étant de nature instinctive, le tout de l'obligation eût été de l'instinct si les sociétés humaines n'étaient en quelque sorte lestés de variabilité et d'intelligence. C'est un instinct virtuel comme celui qui est derrière l'habitude de parler. La morale d'une société humaine est en effet comparable à son langage. Il est à remarquer que si les fourmis échangent des signes, comme cela paraît probable, le signe leur est fourni par l'instinct même qui les fait communiquer ensemble. Au contraire, une langue est un produit de l'usage. Rien, ni dans le vocabulaire, ni même dans la syntaxe, ne vient de la nature. Mais il est naturel de parler. Et les signes invariables, d'origine naturelle, qui servent probablement dans une société d'insectes, représentent ce qu'eût été notre langage si la nature, en nous octroyant la faculté de parler, n'y eût joint cette fonction fabricatrice et utilisatrice de l'outil, inventive par conséquent, qu'est l'intelligence. Reportons-nous sans cesse à ce qu'eût été l'obligation si la société humaine avait été instinctive au lieu d'être intelligente. Nous n'expliquerons ainsi aucune obligation en particulier, nous donnerons même de l'obligation en général une idée qui serait fausse si l'on s'en tenait à elle. Et pourtant, à cette société instinctive, on devra penser comme à un pendant de la société intelligente, si l'on ne veut pas s'engager sans fil conducteur dans la recherche des fondements de la morale. De ce point de vue, l'obligation perd son caractère spécifique. Elle se rattache aux phénomènes les plus généraux de la vie. Quand les éléments qui composent un organisme se plient à une discipline rigoureuse, peut-on dire qu'ils se sentent obligés et qu'ils obéissent à un instinct social? Évidemment non. Mais si cet organisme est à peine une société, la ruche et la fourmilière sont de véritables organismes dont les éléments sont unis entre eux par d'invisibles liens. Et l'instinct social de la fourmi, je veux dire la force en vertu de laquelle l'ouvrière, par exemple, exécute le travail auquel elle est prédestinée par sa structure, ne peut différer radicalement de la cause, quelle qu'elle soit, en vertu de laquelle chaque tissu, chaque cellule d'un corps vivant fonctionne pour le plus grand bien de l'ensemble. Pas plus dans un cas que dans l'autre, d'ailleurs, il n'y a proprement obligation. Il y aurait plutôt nécessité. Mais cette nécessité, nous la percevons précisément par transparence, non pas réelle sans doute, mais virtuelle, au fond de l'obligation morale. Un être ne se sent obligé que s'il est libre, et chaque obligation prise à part implique la liberté. Mais il est nécessaire qu'il y ait des obligations, et plus nous descendons de ces obligations particulières qui sont au sommet vers l'obligation générale, ou comme nous disions, vers le tout de l'obligation qui est à la base, plus l'obligation nous apparaît comme la forme même que la nécessité prend dans le domaine de la vie quand elle exige pour réaliser certaines fins, l'intelligence, le choix et par conséquent la liberté.